Très bien. Alors, on va peut-être commencer par l'Égypte. Donc, passer de l'état policier à l'état militaire, point d'interrogation. Les colonels qui ont pris le pouvoir, Serena Chafik, s'il vous plaît.
Alors, oui, l'armée, les colonels et les hauts dirigeants de l'armée sont là depuis Nasser, même bien avant, depuis 1952. Depuis le coup d'État, puisqu'ils ont fait un coup d'État en 1952, ils ont détourné le mouvement. Bon, c'est très personnel, hein, je ne suis pas forcément nassérienne comme la mode le devrait, je le devrais. Mais voilà, donc pour moi, il y a eu une révolte populaire, un État, un processus révolutionnaire contre les colons. Et les militaires, les officiers libres, ont fait un coup d'État et sont arrivés au pouvoir. Depuis, ils ne sont pas très loin du pouvoir, même si on ne peut pas dire que l'Égypte a connu un État militaire. On avait les institutions très boiteuses, certes, très détruites par les pouvoirs successifs en place, certes, très corrompus aussi, mais ce n'était pas un État militaire, il n'y avait pas de justice militaire, par exemple. Mais depuis la Révolution, il se trouve que c'est ma propre analyse, même si des fois on me dit que je joue le jeu de la contre-révolution en essayant de faire scission entre le peuple et l'armée, mais je ne sais pas pourquoi aimer cette armée-là qui... Depuis mars, on a les lois les plus liberticides qui n'étaient pas inscrites à l'ordre de sous le règne de Moubarak ou de Sadat, où elles tergiversent beaucoup pour les poursuites judiciaires, où le 9 mars, j'ai été place Tahrir, mes amis jeunes et filles et garçons ont été arrêtés par la police militaire pour justement stopper l'occupation de la place Tahrir. Ces jeunes révolutionnaires, âgés de 18-35 ans, ont été torturés, sont comparus sous 48 heures devant le tribunal militaire. Les jeunes femmes ont subi des tests de virginité obligatoires. Donc c'est un viol parce que, excusez-moi, je suis un peu crue. C'est peut-être aussi mon métier, je suis conseillère conjugale. Donc un doigté obligé, c'est un viol. C'est un acte de pénétration. Et elles ont été prises en photo par les soldats pour leur faire des procès de prostitution. Donc voilà comment les militaires aussi traitent les révolutionnaires. 9 avril, vous avez vu ce qui s'était passé aussi lors des manifestations avec des militaires qui sont venus soutenir les revendications des révolutionnaires en disant non, nous ne sommes pas encore arrivés aux fins et aux objectifs de la révolution. Il y a eu une tuerie, il y a eu une boucherie, on a encore 8 disparus. Ceci étant, l'objectif premier aujourd'hui, pour vendredi prochain, rendez-vous donné pour Révolution 2, c'est la fin, le remerciement des militaires. Merci beaucoup. Retournez dans vos casernes, c'est ce que vous savez faire. Laissez les civils faire ce qu'ils savent faire, un état de droit. Ça, c'est la première chose. La deuxième, bien sûr, ce sont aussi toutes les poursuites judiciaires. Je termine avec une seule phrase. Je ne peux pas entendre, parce que c'est très à la mode, et c'est peut-être inévitable, entendre dire que ce ne sont pas des révolutions. Ce sont réellement des processus révolutionnaires qui ont pour objectif non pas de renverser un gouvernement, mais un régime. Et c'est ça qu'il y a, l'espérance, ou l'espoir, parce qu'espérance c'est très religieux, l'espoir de, justement, un changement idéologique profond, mais ne jugez pas une révolution en disant qu'elle est inachevée ou qu'elle n'est pas encore réussie au bout de 2 mois. La Révolution française, elle a mis combien de temps ? Donc voilà, juste pour revenir à la Syrie, parce que j'avais très envie de le dire, et je suis féministe, donc j'ai vraiment envie de souligner le courage des femmes de Horan, de Daria, qui ont fait une manifestation de femmes contre l'occupant, enfin contre l'occupant, j'allais dire l'occupant. C'est vrai que ça ressemble à de l'occupation par des pouvoirs dictatoriaux, mais contre ce pouvoir dictatorial, et qui ont eu le courage de descendre en tant que mères. Ce ne sont pas des féministes, ce sont des personnes comme lambda. C'est la Syrienne moyenne qui est descendue réclamer un état de dignité pour elle. Et puis pour rappeler aussi que toutes ces révolutions sont mixtes, que les hommes et les femmes ont été ensemble, que pas de démocratie sans les enjeux pour les droits des femmes, et que là, on va rester très vigilante. Et puis justement, je vous disais que je vais lancer la Nawal Saadawi, une féministe qui a payé très cher son engagement, y compris par des fatwas de mort, y compris par de la prison politique, depuis sa date d'ailleurs, hein, ça date pas de Moubarak, a lancé un appel à une coalition des femmes arabes. Et moi, j'ai envie, avec beaucoup de féministes arabes, de lui dire chiche. Parce que, justement, si les Égyptiennes, aujourd'hui, se taisent sur leurs droits, et pourtant, on a le code de famille le plus archaïque, le plus barbare, c'est peut-être aussi parce qu'on n'a pas la possibilité de parler, et peut-être aussi parce qu'on n'a jamais eu de canaux pour parler, et peut-être que la confrontation avec nos amis algérienne, tunisienne, avec un très beau manifeste des femmes en Tunisie, avec non seulement c'est un manifeste des femmes, mais c'est vraiment un programme politique pour un État démocratique, et donc qui peut être une base justement pour cette coalition. Et donc je tiens vraiment, avant d'arrêter mon intervention, à saluer toutes ces femmes-là qui ont été peut-être des hommes comme les autres, sans revendication propre, mais il est temps qu'elles ouvrent aussi leur voix et qu'elles revendiquent leurs droits.
Merci, Serena Chafik. On va peut-être finir les questions, non ? Tu voulais dire quelque chose ? Il y a 8 questions.
Éventuellement, je voulais répondre à celles qui m'étaient posées sur la Libye, mais enfin, je peux répondre après. Hein.
Vas-y.
Alors, il y en avait 2, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y avait l'idée que l'intervention... en Libye, l'intervention alliée, mais avec une coalition, comme on l'a vu, comme l'a rappelé M. Bouchirir, très hétéroclite, serait susceptible de voler leur victoire aux Libyens, serait susceptible de voler sa victoire démocratique au peuple libyen. Alors peut-être 2 choses là-dessus, très rapidement. On ne va pas se mentir, hein, entre nous, évidemment que c'est Nicolas Sarkozy qui a voulu cette intervention, qui a fait pression une fois qu'il a été saisi, justement, de la situation réelle des Libyens, une fois qu'il a été mis en contact par un philosophe célèbre, Bernard-Henri Lévy, avec le Conseil national de transition. C'est lui qui a voulu donc cette intervention, c'est même lui qui a tiré par la manche, ça on peut le dire aujourd'hui, c'est une évidence historique, c'est lui qui a tiré par la manche un président des États-Unis, Barack Obama, qui ne voulait pas y aller, qui pensait que le rôle des États-Unis n'était pas de s'impliquer justement dans le combat démocratique des Libyens contre Kadhafi et contre sa dictature, dont nos invités ont rappelé ici la nature exacte. Cet hyper dictateur qu'était Kadhafi, il pensait que Obama n'avait pas envie en fait, d'aider d'une manière ou d'une autre le peuple libyen à s'en libérer. Alors maintenant, est-ce qu'effectivement, au bout d'un peu plus de 2 mois d'intervention, on peut dire que... les frappes, ceux qui les accompagnent, la protection, c'est vrai, des civils qu'elles permettent, est-ce que c'est en train de voler sa victoire aux Libyens ? Sincèrement, je n'en sais rien. Ce que je sais, en revanche, c'est que c'est ce que rappelait, dans le cas de la Tunisie, Madame Chafik, c'est qu'une révolution, c'est un processus au long cours. Une révolution, c'est fait de progrès, mais c'est fait aussi de ce qu'on appelle en histoire des régrès. Autrement dit, c'est pas un processus historique linéaire. Et c'est évident que le jour où les Libyens vont arriver à chasser Kadhafi, on pourra dire que cette révolution libyenne, bien qu'appuyée par des armées extérieures, est quand même une réussite. Maintenant, moi, ce que je craindrais, plus, si vous voulez, que l'idée que c'est, au fond, qu'il y a une sorte de vol ou de détournement de la révolution du peuple par les armées alliées, moi, ce que je craindrais, c'est tout simplement qu'elle n'aboutisse pas. C'est-à-dire qu'on s'en tienne à une situation où on irait vers une partition du pays et où Kadhafi garderait une partie de la Libye sous sa coupe. En l'occurrence, ça serait plutôt la Tripolitaine, hein, comme les choses se dessinent aujourd'hui. À mon avis, c'est la vraie question qui se pose et c'est beaucoup plus dangereux que l'hypothèse d'une victoire qui serait volée par les alliés, en quelque sorte. Je ne crois pas qu'on aille vers ça. Je crains qu'on aille, en revanche, vers une situation où Kadhafi va garder le pouvoir. Enfin, une partie du pouvoir sur le reste de la Libye. Quant au pétrole, si on raconte l'histoire telle qu'elle s'est passée, c'est-à-dire avec ce volontarisme de Sarkozy, éminemment respectable et éminemment critiquable, sans doute, hein, ce n'est pas le lieu d'en débattre, mais c'est une autre question, c'est absolument évident que ce n'est pas ça, c'est pas le mobile de l'or noir n'a pas été la cause déclenchante. La cause déclenchante, elle a été, pour le meilleur et pour le pire, humanitaire. C'est-à-dire que la volonté de faire cette guerre a répondu avant tout à ce qu'on a appelé à ce moment-là, d'ailleurs certains l'ont théorisé, le devoir de protection des populations civiles. On peut le critiquer, mais il faut partir de là. Il ne faut pas se tromper sur les causes réelles de cette guerre. Les causes réelles de cette guerre sont, dans ce cas, plutôt ces causes déclarées, ces causes affichées. C'est à partir de là qu'on peut, je crois, démocratiquement élaborer une critique de cette guerre. Mais il ne faut pas se tromper sur ces causes. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'essentiel.
Merci Alexis Lacroix. Alors, Moussa Harim et Slimane Bouchiguir, à la question en Libye, l'intervention de la communauté internationale ne serait-elle pas en fait une guerre de l'OTAN contre la Libye ? Est-ce que vous pouvez ?
Premièrement, je vais répondre à monsieur là pour lui dire moi, je pars de la réalité pour analyser les choses. Après, on peut monter une théorie. Je n'ai pas de grille d'analyse auparavant. La révolution, quand un peuple demande un changement, ça s'appelle une révolution. C'est comme ça, ça ne peut pas être autrement. Sinon, il fallait attendre, peut-être ça fait 42 ans que la Libye attend, peut-être il fallait attendre encore que 40 ans. Et peut-être nos amis, ceux, les théoriciens, seront contents parce que finalement, on attend que la révolution soit mûre. Il n'y a pas de révolution mûre et d'autres qui n'est pas mûre. La révolution, c'est une volonté. Et la seule volonté qu'a le peuple libyen aujourd'hui, et c'est la seule chose sur laquelle on est d'accord, tous, c'est la fin du système Gaddafi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à cette intervention. Cette intervention militaire, tous les Libyens, ils sont d'accord là-dessus du moment où les soldats ne touchent pas terre. C'est-à-dire du moment où l'armée elle reste en l'air, qui frappe les forces de Gaddafi, ce n'est pas notre problème. C'est lui qui a fait rentrer des mercenaires en Libye. Sachez bien que la majorité de la force de Gaddafi, surtout ce qu'eux ils appellent Kataib, ça veut dire les milices qui sont vraiment proches de lui, la majorité, c'est des mercenaires. Et d'ailleurs, ça s'appelle Jaïch al-Tahrir, ça veut dire l'armée Jaïch al-Tahrir islamique, l'armée de la libération islamique. C'est ceux-là qui protègent Gaddafi. Et ça, c'est des sources sûres et certaines. Mais maintenant, peut-être d'autres, ils voudraient que les Libyens soient morts sur les bombes de Gaddafi au lieu que ces mercenaires soient morts sur les bombes de c'est pas de l'OTAN, d'ailleurs, de forces internationales. Ça, c'est une chose qui est très importante.
J'ajoute juste deux mots. À supposer que l'hypothèse est vraie, eh bien, dans ce cas-là, M. Kadhafi est aussi il est dedans. M. Kadhafi, donc, il est en connivence avec l'OTAN, parce que c'est lui qui peut arrêter. Donc, en connivence avec la guerre contre son propre peuple. Parce que si moi, j'étais à la place de Kadhafi et que l'OTAN fait une guerre contre son propre peuple, à la condition que M. Kadhafi démissionne, je démissionnerai bien, je donnerai ma démission, comme ça l'OTAN n'y a plus d'attaque, et mon peuple est protégé. Pourquoi il ne l'a pas fait? Dans ce cas-là, ou bien il est une partie intégrante de cette grande Mouamara, de ce grand complot, ou bien il est tout à fait d'accord avec l'OTAN qui massacre le peuple libyen. Il n'y a pas une troisième explication. Merci.
Très bien. Et puis, on en vient à la question sur la Syrie, la question de monsieur.
Merci de poser la question, parce que c'était la deuxième partie. Si on peut avoir la... Mais je n'ai pas bien mesuré le temps. Voilà, si on peut voir plus grand, parce que pour bien lire. C'est ça l'image de conflit et de la situation aujourd'hui. Les éléments sont très composés. Il y a les structures régionales, par exemple, la région d'Al Jazeera, la région de Daraa, était plus apte, plus près à un mouvement efficace que d'autres. On était plus nombreux dans la vie politique, dans le mouvement organisé et dans les protestations sociales aussi. Et on a eu en 2004, par exemple, des manifestations à Al Jazeera qui étaient très, très fortes. Et aussi, on avait des problèmes il y a un an et demi à Daraa. Alors, on peut dire qu'il y avait des régions qui étaient plus près que d'autres. Deuxième, il y a, c'est-à-dire que ce n'est pas à la mode aujourd'hui de parler de marxisme, mais c'est vrai que le régime tient grâce à des hommes d'affaires, entre deux guillemets sunnites, dans leur majorité. Ce n'est pas uniquement Rami Makhlouf, mais les hommes d'affaires sunnites qui sont dans le groupement d'intérêts sécurité-finance, sont le soutien essentiel aujourd'hui du maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. C'est pour ça la propagande saoudienne et des salafites de Wissral, des télévisions d'extrême droite islamiste, sont très fausses quand ils disent que c'est les Alaouites, c'est les minorités qui font tenir le régime. Non, ce n'est pas vrai. Le régime tient bon parce que la plupart des hommes d'affaires sunnites sont toujours dans son rang. Et ils n'ont pas choisi le rang de la révolte et de changement. Je donne un exemple simple. Il y a 8 mois, combien je peux parler pour résumer?
1 minute. Non, c'est pas vrai.
Non. Par exemple, il y a un an, à peu près moins d'un an, la télévision Dunia, qui nous attaque jour et nuit, qui fait de moi l'ennemi numéro un du peuple syrien, a licencié 72 ouvriers, entre deux guillemets, c'est-à-dire techniciens, chefs d'atelier et travailleurs dans la télévision privée qui s'appelle Dunia, qui est proche du pouvoir. Alors, les 72 qui sont cadres supérieurs, on dit, on ne peut pas faire une manifestation, on ne peut pas faire un rassemblement, on va faire grève de la faim. On s'agresse, on agresse notre propre corps pour dire non, ça ne se fait pas. Alors, quand ils ont voulu commencer une grève de la faim, alors il y a le directeur de l'administration de Dunia, qui est un très grand homme d'affaires sunnite syrien, qui appelle Ali Mamlouk, le responsable, l'un des responsables là touché par les sanctions, et lui dit, les gens voulaient faire des histoires contre le pouvoir. Ah, il a dit, mais écoutez, envoyez-moi la liste. Il a envoyé la liste, ils ont téléphoné aux gens, vous voulez faire grève de la faim? Venez, vous pouvez le faire ensemble en prison. Ils ont tout stoppé. Alors, ces hommes d'affaires qui n'ont pas de morale, qui n'ont pas de scrupules, qui ont gagné en 10 ans ce qu'on peut naturellement gagner en 20 ans, sont des alliés solides de pouvoir, parce qu'avec la sécurité, on peut faire vraiment des affaires avec tous les moyens de corruption et avec un pourcentage pour les gens de Moukhabarat. Pour ça, on a un problème. Et troisième, c'est minorité-majorité. Jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi, en tant que démocrate syrien, à renforcer un grand discours de citoyenneté dans l'ensemble du pays. Il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, et il faut travailler là-dessus. C'est pour ça qu'on a lancé, il y a 10 jours, une initiative qui s'appelle Multaqa Horan lil Muwatana, le forum ou rencontre Horan pour la citoyenneté, pour travailler sur cette question, c'est-à-dire comment établir dans l'ensemble de la Syrie, chaque région, des rencontres, des forums pour la citoyenneté, pour travailler vraiment à la base la question de la démocratie et pas seulement dans les slogans, parce qu'on a été privé de toute pratique démocratique dans la vie quotidienne. Le confessionnalisme est une grande question aussi. Et jusqu'à maintenant, moi je donne toujours un exemple. Si par exemple on est à Saint-Denis au Stade de France, si au niveau des joueurs, on peut parler de 30% maximum, 70% sont dans les stades, sont en train de regarder. Et cette majorité passive, jusqu'à aujourd'hui, donne la force à l'ensemble des institutions de pouvoir pour se maintenir jusqu'à maintenant. Parce qu'on n'a pas eu des cessions réelles dans l'armée. On n'a pas eu des démissions dans le premier, deuxième rang de parti. On n'a pas eu. Il faut voir les choses telles qu'elles sont pour pouvoir avancer. Moi, je ne suis pas un vendeur d'illusions. J'ai un projet révolutionnaire pour changer la société syrienne d'un régime dictatorial à un régime démocratique. Et pour avoir cela, il faut être très rationaliste et avoir un projet capable de faire adhérer une bonne majorité, confortable. Et c'est uniquement dans ce cas que pacifiquement, on peut gagner la bataille. Mais si on n'a pas cette majorité, il y aura des dérives violentes de la part de pouvoir et de la société. Et la capacité d'entrer dans une, ou de pousser la société dans une guerre civile n'est pas un scénario à écarter. On a plusieurs scénarios. Nous, la différence entre nous et la Libye ou n'importe quel pays, on n'a pas le droit à un État faible. On n'a pas le droit à un État faible. On a besoin d'un État démocratique et fort. Et c'est ça le projet des démocrates syriens. Si on perd la pédale et on dit on s'en fiche, on est tous, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura pas de gagnant dans le pays.